Voilà, nous continuons notre série concernant les questions difficiles, récurrentes et essentielles. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Du verset 1er au verset 3. 1 Jean chapitre 4, du verset 1er au verset 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà, donc la question qui m'avait été posée, c'est que nous, en lisant d'autres textes des Écritures, nous savons qu'il y a une personne clairement définie qui représentera l'Antéchrist, donc qui viendra à un moment donné pour s'imposer comme Christ, une sorte de Messie pour l'humanité. Et pourtant, bon, ici, on dit qu'il est déjà là. Donc, nous allons expliquer premièrement pourquoi il est déjà là. Ensuite, nous allons en profiter pour expliquer c'est quoi l'esprit de l'Antéchrist. Donc, nous relisons, il est écrit au verset 2, « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc on voit bien qu'on insiste sur l'esprit, puisqu'on dit c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et donc quand là on dit qui maintenant est déjà dans le monde, il s'agit de l'esprit de l'Antéchrist. Il s'agit de son action. L'Antéchrist est déjà en action, mais en tant que personne clairement définie et unique, je crois que le temps n'est pas encore arrivé parce que, comme il nous est dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, qu'on verra l'homme impie. Hein, donc c'est bien, ça sera quand même une entité unique et, bien distinguée. Voilà, ça ne sera pas forcément un esprit, ça sera vraiment une personne unique, claire. Et là, quand on dit que c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde, il s'agit de son action, il s'agit de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde. C'est vrai que on a tendance à se dire, mais oui, mais Satan, c'est pas lui l'Antéchrist. Satan est avec l'Antéchrist, c'est lui qui communique à l'Antéchrist toute la puissance. Mais même si Satan est contre Jésus, il n'est pas lui-même l'Antéchrist parce que Satan a bien des rôles, a plusieurs rôles. Il n'a pas que le rôle de s'opposer à Christ, même si c'est son rôle principal. Parce qu'il faut savoir quand même que Satan a existé avant que Jésus ne vienne en homme. Et donc, avant que Jésus ne vienne en homme, il ne jouait pas forcément le rôle de l'Antéchrist. Voilà, donc on voit bien que Satan n'est pas limité qu'au rôle de l'Antéchrist. Il peut avoir plusieurs rôles. Il tente les humains, il les amène à voler, il les amène à pécher. Il a plusieurs rôles. Donc, il crée des guerres. Ce qui nous oblige à bien expliquer c'est quoi l'antéchrist, c'est quoi l'esprit de l'antéchrist? C'est quand même un rôle clairement défini dans la lutte du diable contre Dieu, contre les enfants de Dieu. Ce n'est pas de créer des guerres, ce n'est pas de créer des maladies, ce n'est pas de créer la prostitution. C'est un autre rôle, celui de refuser. C'est ce qui est écrit. Hein. Le verset aussi nous aide carrément. 1 Jean 4, le verset nous aide. Il est dit, on reconnaît l'esprit de l'antéchrist. Hein. Vous avez, tout esprit qui se déclare, au verset 2, publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Donc, le rôle quand même de l'antéchrist, de l'esprit de l'antéchrist, c'est nier la réalité palpable, physique de Jésus. C'est nier cela, l'esprit de l'antéchrist. Et c'est pourquoi c'est précisé « venu en chair ». Parce qu'on peut toujours parler de Dieu en des termes spirituels, hein, en des termes imagés. Et ce que Jean refuse, c'est cela, qu'on en reste à parler de Dieu en termes spirituels, du Messie en termes spirituels, en termes angéliques. Jean veut dire que Jésus est venu réellement en chair. Donc, il a droit à tout ce qu'on prétend qu'il doit avoir, c'est-à-dire que c'est lui l'héritier du Père. Donc il est venu en chair. Donc ce n'est pas, on n'a pas à spéculer, c'est une réalité. Et Jean nous explique que l'antéchrist, justement, son rôle, c'est de combattre cette idée-là que le Fils de Dieu est venu réellement et qu'il a ses droits de fils. C'est important, il y a plusieurs textes que nous allons lire, oui.
Par rapport au verset...
Oui, ça marche.
Par rapport au verset 2, tout esprit qui confesse, c'est tout esprit, c'est toute personne, mais il y a plein de gens qui confessent, plein de gens qui confessent Jésus-Christ, mais qui ne sont pas de Dieu.
Oui, mais venu en chair, c'est-à-dire avec tous ses droits, parce que Il y a une conséquence. Le fait que Jésus soit venu en chair, donc il est fils de Dieu, donc il a tous les droits désormais. C'est lui le chef de tout ce qui est spirituel. C'est lui le chef des amis de Dieu. Il y a des droits qui suivent. C'est pourquoi il y a ce combat-là, parce que prenez le cas des Juifs. Ils préféraient qu'on parle de Jésus, enfin du fils de Dieu, ou bien du Messie, en termes d'avenir. Il viendra. Comme ça, il reste libre de gérer les Juifs avec leur doctrine erronée, d'égarement. Mais s'ils doivent reconnaître que le Fils de Dieu est réellement venu, donc ils sont obligés de se soumettre. Parce que si c'est le Fils de Dieu, donc nous les sacrificateurs, nous ne sommes rien devant lui. Donc on doit se soumettre à lui. Si vraiment il est le Fils de Dieu, donc on doit accepter qu'il nous donne les explications sur tout ce qui concerne le ciel. Donc ça entraîne forcément des conséquences sur la personne qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Donc, il comprend que mais Dieu nous a visités. Donc, je n'ai plus de raison à dire, mais je ne comprends pas Dieu, c'est flou. Non, puisque le Fils de Dieu est venu, les choses sont claires. Donc, ça a des conséquences. C'est pourquoi il y a un combat à reconnaître cela, que Jésus est venu en chair. Réellement, Jésus est le Fils de Dieu. C'est un grand problème. C'est un grand combat spirituel. Et c'est pourquoi il y a toute... Des esprits dédiés à cela, tout un esprit dédié à nier cela. Et Jean explique que, ben, il est déjà en action. Oui, Maxime.
Je pense que, Nelly, tu me diras si je me trompe, je pense que là, quelque part, la sœur pensait aussi, faisait un parallèle entre ce verset et les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, en fait.
Et oui,
il
oui.
y a des hommes de Dieu qui vont confesser Jésus-Christ est venu en chair, mais ça n'empêche pas que c'est quand même des faux serviteurs.
Mais au fait, ils le disent de la bouche. Ce n'est pas ce que Jean veut dire. Jean veut dire que celui qui accepte ça, parce que confesser Jésus-Christ est venu en chair, c'est accepter ça réellement. Mais que quelqu'un utilise ça pour moyen de voler ou de tromper, Il ne confesse pas réellement. Voilà, c'est de la bouche. C'est accepter tous les droits qui est attribué, qui sont donnés au Fils de Dieu. Et vous allez voir que c'est quand même, même si Satan utilise des esprits pour pousser les gens à voler, à mentir, à faire de la prostitution, à frapper, mais cet esprit-là, c'est un esprit puissant, l'esprit antéchrist, qui est là pour nier qui est Jésus, voler les droits de Jésus-Christ en tant que fils. Et nous allons comprendre, Jésus lui-même va nous donner une parabole qui va nous faire réaliser ce qu'on dit là. Mais avant d'arriver à la parabole de Jésus, bon, nous, on écoute la question du frère Claude.
Je voulais dire, il y a, comment dire, les musulmans ne conçoivent pas que Jésus-Christ est le fils de Dieu.
Donc, voilà, vous avez un exemple là, de l'esprit de l'antéchrist. Voilà, on a un exemple. Pourquoi toujours ça? Même si vous allez chez les juifs, il y aura le même problème. Ils acceptent qu'ils soient fils de Dieu. C'est toujours... Parce que quand vous acceptez que c'est le fils de Dieu, admettons que vous êtes dans une entreprise et, bon, vous ne savez pas trop qui est le chef. Chacun bosse, chacun fait son boulot. Et puis, je vais te dire quelque chose à toi, Claude, tu me dis, mais non, mais écoute, tu n'es pas dans mon département. Et toi, tu veux dire quelque chose à quelqu'un d'autre? L'autre dit aussi, mais non, attention, tu n'es pas mon chef. Et chacun vit dans son territoire, il fait un peu ce qu'il veut. Mais si on nous apprend que le PDG est arrivé, nous tous, on est obligés de baisser les bras, de dire, ben, on est obligé d'écouter le PDG parce que c'est son entreprise. Voilà. Donc, accepter qu'il y ait un fils de Dieu, donc tout le monde va baisser les bras pour dire, bon, on ne peut pas lui résister parce que c'est nous, on cherche Dieu. Dieu, c'est son père. Donc, c'est qui mieux que lui peut nous parler de son père? Voilà, personne. Donc, on est obligé de se soumettre. D'où l'antéchrist va vouloir attaquer toujours cette affaire-là de Jésus-Christ réellement venu en fils de Dieu en chair. On va préférer que ça reste des trucs spirituels avec des images. Mais accepter cette réalité-là, ça amène des conséquences. On était en train d'évangéliser un homme en Guyane, eh bien, il ne voulait pas citer le nom de Jésus, parce qu'il disait que lui-même, il était une forme de Dieu. On dit, mais bon, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Il ne répondait pas à cette question, il disait, mais moi-même, je suis en quelque sorte Dieu. Et je disais, mais est-ce que Dieu, tu peux nous arrêter la pluie parce qu'on est embêté par la pluie là qui... Alors, il éludait la question, et puis... À force qu'on a lui dit, mais non, mais nous, on est embêtés par la pluie. Puisque tu es Dieu, arrête-nous cette pluie-là. Il a fini par dire qu'il a permis ça pour qu'il y ait les plantes, ainsi de suite. Donc, mais bon, après, il a eu besoin de nous pour qu'on lui achète quelques conserves pour manger, quoi. Voilà. Bref, c'est pour dire que c'est un esprit fort, l'esprit de l'antéchrist, parce que accepter le Fils de Dieu, c'est clair, bien-aimé. Aujourd'hui, si on nous disait que Jésus veut entrer dans cette salle, vous m'oubliez vite, hein? Très rapidement, donc, tout le monde... Parce que je suis censé vous amener à Jésus. Maintenant, lui-même est venu. Donc, qui va me calculer encore? Donc, tout le monde va suivre le Fils. Donc, reconnaître que le Fils est là, c'est que tout le monde doit s'incliner devant le Fils. Et c'est écrit tout ça, vous savez, tout ça c'est écrit dans la parole. Hein? Inclinez-vous devant le Fils. C'est écrit. C'est écrit, je connais le psaume 2. Inclinez-vous, baisez le Fils, c'est écrit. Donc c'est que, puisque c'est le Fils, c'est clair, puisque personne ne voit le Père, mais dès qu'on voit le Fils, on considère qu'il a tous les droits. C'est pourquoi la Bible est précise. Hein? Le Fils unique. Il est le Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des fils par adoption. Mais c'est pourquoi l'esprit de l'antéchrist va vouloir nier cette réalité-là. Et nous lisons 1 Jean 2,18 qui va nous aider encore à comprendre cette affaire-là. 1 Jean 2,18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Vous savez, Jean explique ça. Il dit, l'antéchrist nie le Père et le Fils. Donc, en quelque sorte, il nie cette réalité-là qui est Dieu le Père et qui est Dieu le Fils. C'est ça que Jean veut dire. L'antéchrist nie cette réalité-là. Il y a Dieu le Père, mais il a son Fils. Pourquoi il nie ça? Parce qu'accepter ça, c'est donner tous les droits au Fils. Voilà. Et comme ils veulent mettre des désordres, ils préfèrent que le Fils n'entre pas dans ses droits. Voilà ce que Jean nous explique. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset 23, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » C'est important parce que beaucoup de gens, à un moment, disent, « Mais oui, pourquoi quelqu'un qui croit en Dieu, qui se comporte bien, mais juste parce qu'il ne croit pas en Jésus, devrait aller en enfer ?» Mais Jean nous explique que l'esprit qui anime une telle personne, c'est l'esprit de l'antéchrist. Il nie le Fils parce que c'est le Père qui a envoyé le Fils. Je me souviens quand j'étais au Maroc, jeune chrétien, je disais, mais pourquoi nous parlons tout le temps de Jésus comme ça? On parle de son nom, parfois même plus que du nom de plus que le nom de son Père. Et j'ai reçu la réponse dans Philippiens 2. C'est pourquoi Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. C'est écrit. Donc Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Et il a fait ça parce que Jésus s'est humilié, il a été crucifié pour nous sauver et par obéissance à son Père surtout. Et Dieu a mis son nom au-dessus de tout nom. Dieu est content de voir que le nom de son Fils est élevé. Parce que finalement, son Fils l'élève lui-même aussi. Il est très content. Et ça m'avait fait du bien. C'est pourquoi l'antéchrist veut nier toujours le Fils. L'esprit de l'antéchrist veut semer le désordre, qu'on ne sache plus qui est le chef. Et là où il n'y a plus de chef, on fait, c'est le désordre. Vous voyez, dans l'église, où tout le monde va dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Finalement, il n'y a plus de chef. Tout le monde, Dieu lui a dit, Dieu lui a dit. Mais quand on veut sortir maintenant la Bible, le Seigneur a dit, il est écrit. Ah! Vous allez voir déjà, oui, mais c'est écrit, mais. Non, pourquoi mais? C'est le Fils qui est le chef. Donc on suit ce que le Fils a dit. C'est cela que l'antéchrist ne veut pas. L'antéchrist veut le désordre. Chacun fait comme il veut, selon sa logique, selon son interprétation. Mais Dieu veut qu'on suive le Fils. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 12? Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Écoutez-le. Ou dans Matthieu 17, dans la Transfiguration. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut écouter. Et quand on écoute Jésus, il nous ramène ensuite dans l'Ancien Testament pour écouter les mêmes paroles qui ont été dites et qui se confirment dans le Nouveau Testament, qui sont liées à celles qui sont dans le Nouveau Testament. C'est cela le vrai chemin à suivre. Et nous lisons 2 Jean 7 aussi. 2 Jean 7. Vous voyez que Jean, un de son travail, s'était consacré à dire que Jésus est Dieu et est le Fils de Dieu. On se souvient, non, de Jean 20, 31. Qu'est-ce qui est dit? Mais tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean explique que tout ce qui a été écrit, c'était dans cet objectif-là. Et qu'en croyant, vous ayez la vie. le but de l'évangile de Jean. Tout ce qui a été écrit, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez que nous revenons, c'est lui qui mieux parle de l'esprit de l'Antéchrist, parce que donc il a reçu un appel particulier à affirmer la divinité de Jésus, à affirmer la réalité du Fils de Dieu. Et nous lisons encore 2 Jean 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » C'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, il ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venu en chair. Vous savez, il y a eu, à l'époque, au 1er siècle, un certain Arius, qui était un homme je crois plus au 2e siècle, je crois. Donc, qui était un homme très, très intelligent, avec beaucoup de talent en tant qu'humain, et qui se prétendrait aussi serviteur de Dieu chrétien. Et il a entraîné beaucoup de gens dans des erreurs doctrinales, parce qu'il était très éloquent. Et une de ses erreurs doctrinales, c'était justement ce que Jean est en train de dénoncer là. Ne pas accepter Jésus comme le Fils unique de Dieu. C'est ce Jean d'Arius, il prétendait qu'il y a des secrets, il y a des niveaux de connaissances. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas clairement que c'est Jésus seul le chemin, mais on vous propose de méthodes, de secrets, de maîtres. Et c'est ce qu'on appelle aussi la gnose. Donc, c'est-à-dire qu'un système où il y a plusieurs maîtres. Donc, et il y a des initiations pour atteindre une connaissance. Or, Dieu nous dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le fils. Il faut suivre Jésus. Il ne s'agit pas d'initiation, de technique de connaissance. C'est Jésus qui dit qui est le chemin, la vérité et la vie. Et là, Jean nous dit, celui qui nie que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit de l'antéchrist. Oui.
Moi, je voudrais savoir, l'antéchrist doit arriver avant Jésus ?
Oui, oui. Voilà, question encore là.
Quand tu dis que donc Dieu il a élevé Jésus au-dessus de tous les noms, que Dieu il dit
qu'il son nom, oui, il a élevé son nom au-dessus de tous les noms.
Qu'il faut écouter Dieu. C'est quoi le nous on est censé être comme Jésus, c'est ce qu'on doit être, et puis aussi être des témoignages et puis évangéliser et tout. Mais c'est quoi le parallèle entre nous et Jésus pour je sais pas trop comment expliquer.
On te laisse réfléchir. On continue. Donc, remarquez que dans beaucoup de mouvements qui dévient, on va finir de moins en moins à parler de Jésus lui-même. Mais on va vous dire, dans notre église, on fait comme ça. Dans notre église, on fait ceci. Dans notre mouvement, c'est comme ça qu'on fait. Remarquez ça, hein, pour ceux qui ont un certain âge. Donc, quand un mouvement s'éloigne de Dieu, dans ce mouvement-là, Jésus sera diminué. C'est l'esprit d'Antéchrist. La volonté de diminuer Jésus. Il ne faut pas que le Fils soit élevé. Il ne faut pas que le Fils soit mis au-dessus. Les gens préféreront vous parler du règlement intérieur de l'Église, du règlement intérieur de l'association. Ils préféreront vous parler du pasteur principal, du père de la nation, comme j'ai suivi quelque chose avant-hier. On appelait le pasteur le père de la nation, bien-aimé. Donc ils volent la place de Jésus-Christ, le père de la nation. Donc on présentait les pasteurs, un tel pasteur, et puis on arrive à un, on dit le père de la nation. Je ne pouvais même pas savoir c'est qui, puisqu'on s'est arrêté à le présenter seulement le père de la nation. On n'a même pas donné son nom. Donc vous imaginez, on ne donne même pas son prénom, ni son nom, on dit bon, le père de la nation. Le monsieur aussi s'élève. Mais quel courage! Quel courage! c'est du vol. Toujours vouloir prendre la place de Jésus. Parce que si Jésus est dans tous ses droits, les gens ne suivront que lui. On suivra que Jésus, on ne suivra pas autre chose. Alors, pour faire que les gens ne suivent pas Jésus, il faut lui enlever ses droits. Il faut enlever Jésus de l'esprit des personnes qui pensent suivre Dieu. Oui, Sophie ?
En fait, moi, j'aimerais savoir, parce que dans le verset 7, donc de Jean 7, on parle de séducteurs, et vous dites que on va commencer à voir dans les églises de moins en moins le nom de Jésus. Enfin, on va...
Pas le nom de Jésus, mais il y en a même qui chantent Jésus, qui dit Jésus, mon amour. Mais en réalité, c'est pour vous séduire. Mais concrètement, on ne pousse pas les gens à s'attacher à Jésus et à suivre Jésus. Concrètement, on pousse les gens à suivre cet homme-là ou d'autres. Voilà.
Donc, en fait, quand ils vont nier le Fils, ce sera vraiment, comme le dit ce verset, en fait, ce sera vraiment dans la séduction, ce sera vraiment très
subtil. Ça sera subtil pour certains cas, facile pour d'autres, comme l'islam, c'est très facile. Comme dans le judaïsme, c'est très facile. On nie Jésus-Christ tranquillement, comme dans l'islam, comme dans chez les athées, on nie Jésus tranquillement. Mais dans les milieux chrétiens, il y aura des séducteurs. Donc Jean nous prévient à tous les niveaux. Il dit, éprouvez tout esprit. Donc attention, il y a des séducteurs. Regarde, observez bien quelqu'un. Si vous sentez qu'il amène plus sa propre logique, il amène plus des raisonnements du genre... Voilà, comme on voit dans le bouddhisme ou bien dans les sciences religieuses orientales, on passe des étapes. On est arrivé à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Au fait, ce n'est pas le Fils qui sauve, ce n'est pas le Fils qui donne les instructions, mais c'est une sorte de classe. On est dans une sorte de classe qui élève les gens. Et ce n'est pas bon. Donc là, on est en train d'écarter le Fils. Même dans Éphésiens 4, c'est dit que c'est Jésus qui a donné les dons aux églises. C'est Jésus qui appelle les pasteurs, qui appelle les évangélistes. On ne dit pas que c'est une formation qui les appelle. C'est Jésus qui le fait. Ça, c'est les droits du Fils. Il est le chef de l'église, c'est écrit dans Éphésiens 1. Il est le chef de l'église. Donc, du moment qu'on reconnaît le Fils, automatiquement, on sait que le chef est là. Mais or, quand on voit un système qui passe autrement, même si le nom de Jésus est dit comme ça, on doit comprendre que l'esprit de l'antéchrist est déjà en action.
D'accord. Et on sait de quel milieu il va sortir ?
De quel milieu ?
Oui.
Ah, mais il y a plus beaucoup de suppositions. Donc, si on il y en a qui pensent que c'est le monsieur là, le prince d'Angleterre, là, William. C'est qui celui qui s'est marié là ? William, voilà. Donc, il y en a qui pensent que c'est lui, il y en a qui pensent que c'est Obama, donc, et puis il y en a qui pensaient que c'était Jean-Paul II. Donc, ça, c'est. Il y a quelqu'un qui a dit attention, on risque de penser que c'est toi aussi dans 15 jours. Voilà. Donc, pour dire que, bon, arrêtez avec, puisque à un moment, on faisait la somme des chiffres. Hein. Tu fais la somme des chiffres de ton nom. Si ça donne 666, ah, c'est lui l'antichrist. Donc, le pape avait quelque chose sur sa. Il a une phrase écrite sur sa coiffure, quand vous faites la somme de ces chiffres-là, ça donne 666. Et alors, les gens ont fait souvent cette somme-là. Les grands mauvais de l'humanité, ça a donné souvent 666. Et il y a un sage qui avait dit, arrêtez de passer votre temps à faire des sommes, parce qu'un jour, tu vas faire ta propre somme, ça donne 666. Voilà, donc, contentons-nous des éléments que la Bible nous donne. Voilà, oui, Maxime.
Simplement pour par rapport à la subtilité, comme disait la sœur, il y a aussi des personnes qui vont dire que, comme toi tu parlais de certains niveaux dans certaines religions, en Christ il y a aussi des personnes qui peuvent, au lieu de placer ces niveaux, de dire que c'est de la maturité en fait, que grâce à certains niveaux de maturité, on comprend la parole d'une certaine manière.
Or, oui, mais cette maturité... Vas-y, vas-y.
Au lieu de dire que c'est l'esprit qui va t'enseigner la Bible, enfin que tu dois prier pour comprendre la parole, on va plutôt t'enseigner que, bon, toi tu comprends pas, mais quand tu arriveras à un certain niveau de maturité, pour l'instant écoute-moi, parce que quand tu seras arrivé à un certain niveau de maturité, tu comprendras ces choses. Donc en attendant, la personne ne comprend pas, et elle suit...
Oui, après ça dépend de la façon de parler. Même Paul explique que pour le moment, on vous donne du lait, parce que vous n'êtes pas encore des enfants, mais vous aurez dû être des maîtres. Donc la maturité, c'est une réalité. Puisqu'on est des humains, il faut du temps pour assimiler certaines choses. Voilà. Mais cependant, moi je pense que ce qu'on ne comprend pas, on ne doit pas le pratiquer. Un exemple. Voilà, oui, un exemple. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller en Chine alors que lui ne sait pas pourquoi. Donc, et puis je lui dis, mais tu comprendras plus tard. Non, la personne doit refuser. Donc il faut qu'on reste dans ce qui est clair. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question en Guyane sur Genèse. Il s'agissait de quelle question? J'ai oublié. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur les nombres 7, 12, 3. Moi j'ai dit, bien-aimé, ces nombres-là, 12, 7, 3, ne sauvent personne. Ça ne sauve personne. C'est vrai qu'on peut en débattre, ça peut faire des longues discussions, mais ayons l'humilité d'assimiler déjà ce qui est clair. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Travaillons ce qui est clair, et quand Dieu jugera de nous faire comprendre les choses complexes, on les prend. Mais qu'on ne passe pas notre temps à vouloir forcément comprendre tout. Voilà, moi je pense que si quelqu'un nous dit, pour le moment tu ne comprends pas, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on n'est pas tenu non plus à l'appliquer, ces genres de choses-là, à les appliquer. Donc appliquons ce qui est clair. Voilà. Voilà. Et puis, nous lisons aussi Matthieu 21. Vous allez entendre le Seigneur lui-même parler de cette affaire-là de l'Antéchrist. Matthieu 21. Ça s'appelle la parabole des vignerons. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables. » Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui, sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'est d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Les pharisiens, eux, ils ont compris la parabole. Ils ont compris l'image. Ce que Dieu a donné s'est révélé à Israël. Il a donné à Israël de gérer la connaissance de Dieu auprès du monde entier. Maintenant, à chaque fois, Dieu envoie des prophètes pour parler à Israël, pour dire, mais vous ne me suivez pas. Vous n'êtes pas dans le droit chemin. Que font-ils? Ils tuent les prophètes. Il envoie d'autres prophètes, il renie et tue les prophètes. Alors Dieu s'est dit, bon, je vais envoyer mon fils. Quand ils verront le fils, ils se diront, là c'est quand même le fils, respectons-le. On n'a pas le choix. C'est leur bien. C'est le bien. Ce que nous sommes, c'est le bien de leur famille. Mais quand le fils vient, ces gens-là se disent, tiens, si on peut éliminer le fils, réellement tout sera à nous. Parce qu'on éliminait les serviteurs, mais le fils était encore là. Donc si on élimine le fils, maintenant on va garder tout. Il n'y aura plus de dérangement. Et ils saisirent le fils et le tuèrent. Et ils ont compris qu'il s'agissait d'eux. Et ce que Jésus a donné comme parabole, bien-aimé, ça ne fait que se répéter jusqu'à nos jours. Dieu va confier à un pasteur, à un groupe de gens, une église. Au début, ils vont faire le travail comme il faut. Ensuite, ils vont considérer que c'est devenu leur vigne. Maintenant, quand Dieu va envoyer quelqu'un pour dire, mais comment vous gérez la vigne du Seigneur? On n'a pas de compte à te rendre. Ce n'est pas ton problème. Allez, on rabroue la personne. Et Dieu va finir par envoyer Jésus lui-même. Mais on ne sait pas comment. Mais Jésus va se révéler à ces gens pour dire, mais qu'est-ce que vous faites du bien de mon Père? Et ils vont vouloir éliminer le nom de Jésus. Parce que quand on commençait à dire, mais tiens, mais c'est écrit, on nous répondait, maintenant c'est ma vision. Voilà la réponse. Quand tu commences à dire au pasteur, mais pasteur, c'est écrit, on te répond, c'est à moi que Dieu a donné la vision. Donc le nom de Jésus commence à être éliminé. Quand on va apporter un verset biblique, c'est à moi que Dieu a donné la vision. Et petit à petit, comme ça, le nom de Jésus s'élimine. Bien-aimés, vous allez remarquer que tous les mouvements qui dévient, en général, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que quand tu voles, tu peux demander pardon. Quand tu tues, tu peux demander pardon. Quand tu tombes dans l'impudicité, tu peux demander pardon. Mais quand c'est l'esprit de l'Antéchrist, l'objectif même, c'est prendre ce qui est office. C'est différent. Donc tu es vraiment en combat contre le Fils. C'est ça le problème. Et remarquez, le catholicisme a tout enlevé du Fils. On l'a rendu bébé. Ils ont tout enlevé, ils ont donné à la mère. Remarquez, ils ont tout enlevé au Fils, ils ont donné au Saint. Le Fils, on lui a pris ses droits. Dans tout mouvement qui dévie, on prend les droits du Fils. Vous allez chez les protestants, ils ont tout pris. Ils ont donné à qui? Aux professeurs de leur université de théologie. C'est eux qui deviennent maintenant les chefs. Les juifs, ils ont tout pris, ils ont donné à qui? Aux rabbins. Ils ne veulent pas du Fils. Tout ce qui dévie ne veut pas du Fils. Parce que quand on accepte le Fils, on est obligé de s'incliner devant lui. Quand on reconnaît que le Fils est présent, on est obligé de s'incliner. Regardez tous les mouvements. Vous allez voir qu'un mouvement commence maintenant à insister sur un point qui n'est pas le Fils. Comprenez que l'esprit de l'Antéchrist est déjà en action. Je ne dis pas que, bien aimé, il y a des choses qui sont importantes en dehors. Quand je dis en dehors, je ne dois même pas dire en dehors. À part le mot Jésus ou bien le nom Jésus, il y a des choses qui sont importantes. Il faut se faire baptiser. C'est important. Les dons spirituels, c'est important. L'évangélisation, c'est important. Les miracles, c'est important. Mais le plus important, c'est Jésus. C'est le Fils. Reconnaître l'autorité du Fils sur nous. Parce que si tu ne reconnais pas l'autorité du Fils, tu vas dire, comme hier, j'ai guéri un paralytique, aujourd'hui, je dois guérir encore un paralytique. Mais finalement, qui guérit? C'est toi ou c'est le Fils qui guérit? Tu ne reconnais plus l'autorité du Fils. Tu as décidé que tu avais une puissance en toi. Voilà. Tu ne veux pas reconnaître. Vous savez, quand Pierre et Jean ont guéri l'infirme, ils ont dit aux gens qui le regardaient, « Pourquoi vous nous regardez comme si nous avions une puissance personnelle quelconque ou par notre propre piété, c'est-à-dire notre façon de bien vivre la religion, que nous avons pu guérir cet homme-là. » Ce n'est pas par cela que nous avons guéri cet homme. C'est par la foi dans le nom de Jésus que cet homme, que le nom de Jésus a guéri. Quand on lit ça, c'est curieux. Ils disent, c'est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus a guéri cet homme-là. C'est clair. Ils sont exclus de l'affaire. Ils sont dans l'affaire que parce qu'ils croient au nom de Jésus. Voyez la différence entre eux et ceux qui sont influencés par l'esprit de l'Antéchrist qui vont vous dire l'onction que j'ai, c'est le niveau des miracles. L'onction que toi, tu as, c'est le niveau du parler en langue. Voilà. Donc, c'est des gens qui éliminent le Fils. Ils oublient que le Fils est libre. Vous savez, il y a certains groupes chrétiens où on oblige tout le monde à parler en langue. Où est l'autorité du Fils? Il n'y a plus l'autorité du Fils. C'est leur système qui est en avant. Alors que si on doit lire les Écritures, il est clairement dit dans 1 Corinthiens 12, vers la fin, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous prophétisent-ils? Est-ce que... Donc, ce n'est pas tout le monde. Et même si c'était tout le monde qui devait prophétiser ou parler en langue, mais c'est toujours par l'autorité du Fils. Nous, on ne peut pas imposer ça. Donc, il y a à chaque fois le Fils qui est, on veut voler son autorité. Oui.
Donc, ma question, c'est quand Jean il dit qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, est-ce qu'en fait, l'esprit de l'Antichrist, là, on peut l'attraper aussi à un moment comme ça par,
Est-ce qu'on peut l'attraper à un moment? Non, l'esprit de l'Antichrist... C'est le même esprit qui s'est opposé à Dieu au jardin d'Éden, qui a voulu prendre la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous qui veulent être Dieu.
Mais est-ce qu'ils le veulent consciemment ou c'est...
Presque consciemment. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils seront fatigués de voir que nous, on s'intéresse qu'à Jésus. Ils voudraient qu'on s'intéresse à eux. Au début, ils ne le montrent pas. Mais à un certain moment, ça va commencer à devenir embêtant pour eux que nous faisions recours tout le temps à la Bible, tout le temps à Jésus. Et à un moment, ils vont étouffer et ils vont s'en aller. Parce qu'ils avaient voulu, en quelque sorte, qu'à un moment donné, ils soient à l'honneur. Mais puisqu'ils n'ont pas reçu ça, puisque nous, on s'est concentré que sur Jésus et ses paroles, et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même encore, eh bien, ça finit par... asphyxier certaines personnes. Ils ne se sentent plus à l'aise. Comment? Où est leur valeur? Si vous ne faites qu'élever Jésus, où est ma valeur maintenant? Voilà. Donc ces gens-là, à un moment donné, ne voyant pas leur valeur, ils finissent par fuir. Parce qu'ils auraient bien voulu prendre la place du Fils d'une certaine manière. Et ils auraient bien voulu être reconnus. Et c'est des gens souvent qui sont en quête de reconnaissance. Or, l'apôtre Paul dit, mais qui a donné à Dieu pour demander un retour? Donc, qu'un chrétien cherche à une reconnaissance, qu'on dise qu'il est fort dans ceci, qu'il est fort dans cela, ça veut dire qu'il prend la place de Dieu. Parce que la reconnaissance, c'est à celui qui a produit la chose. Admettons qu'il fait des miracles, la reconnaissance, c'est à Dieu qui donne, qui fait les miracles. Quand on a voulu donner les richesses à Élisée, il a refusé les richesses parce qu'il savait bien que ce n'est pas lui qui avait guéri le lépreux. C'était Dieu qui avait guéri. Pourquoi lui, il va prendre les richesses? Donc, si ce n'était pas reconnaissance, il a refusé. Peut-être que 3 ans plus tard, le monsieur pouvait l'aider parce qu'il avait un problème. Mais que ça soit lié à la guérison qu'il venait de faire, Élisée a refusé. Parce que c'était comme si reconnaître que c'est Élisée qui avait fait le miracle. Et donc, quand Jean dit ça, c'est des gens, vous allez bien remarquer, j'ai souvent dit ça aux collaborateurs, vous allez bien remarquer que beaucoup de gens qui partent, c'est toujours un problème de pouvoir. À un certain moment donné, ils ont voulu prendre la place de Jésus. Après, il peut y avoir aussi d'autres raisons, de mésentente, mais en majorité, c'est qu'à un moment donné, ils ont été fatigués que Jésus soit toujours le premier, que la Bible soit toujours la parole de Dieu, que ce ne soit pas leur parole à eux qui soit la parole de Dieu, leur don spirituel à eux, leur façon de faire qui soit reconnue, mais nous restons toujours avec Jésus, la Bible. Or, dans Jésus et la Bible, il y a tout. Maintenant, puisque c'est lui le Fils, puisque c'est lui le chef de l'Église, s'il veut t'élever, il va t'élever. Puisque c'est lui le chef, s'il veut qu'on aille dans une direction A, si vraiment tu reconnais Jésus comme le chef, tu prieras que Jésus s'impose à cette Église pour l'amener dans cette direction-là. Mais si tu ne reconnais pas Jésus comme le chef, tu vas vouloir, toi, donner des conseils et si on ne te suit pas, tu t'en vas. Parce qu'en réalité, tu ne reconnais pas que c'est Jésus qui est le chef. Mais si tu reconnais que Jésus est le chef, tu prieras le Seigneur, diras, mais toi, chef de l'Église, regarde comment ton Église marche. Ton Église ne devrait-il pas marcher de telle manière? Fais quelque chose. Parce que c'est lui le chef. Comme j'ai dit, quand on reconnaît Jésus venu en chair, donc on reconnaît qu'il a tous les droits. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui l'héritier. Donc on a lu dans Matthieu 21, 33, ils se sont dit, voilà l'héritier qui est là. Éliminons-le comme ça. L'héritage est à nous. C'est ce qui se passe partout. Islam, ils ne veulent pas. Mais pourtant, dans leurs écrits, on parle du prophète Jésus. Mais on ne veut pas parler de lui en tant que fils de Dieu. Parce que quand tu dis que fils de Dieu, c'est la conséquence. C'est que tu dois te soumettre totalement. Il n'y a plus de contestation. Voilà. Oui, Franck. Dans le catholicisme, on parle aussi de Jésus, mais comme le bébé.
Moi, ma question, oui. C'est par rapport au mot esprit. Parce qu'on parle de l'esprit d'Antichrist. Il y a plusieurs fois le mot esprit dans la Bible. Et quand j'entends ce mot-là, pour moi, il y a deux conceptions. Il y a l'esprit, l'entité spirituelle, on va dire. Et il y a aussi, par exemple, avoir l'esprit d'équipe. Ou quelque chose qui, en fin de compte, est plutôt une façon de penser collective où on suit la foule, on suit le mouvement, etc. Est-ce qu'il y a ces deux notions-là qui sont dans la Bible ?
L'esprit d'équipe, moi, je pense que nous, après, parfois, pour être terre à terre, pour se faire comprendre, on peut dire l'esprit d'équipe aux chrétiens, mais en réalité, on doit dire que le chrétien doit réfléchir sur l'Église comme étant un corps. Savoir que chacun a sa place et que nous devons travailler ensemble.
En fait, ma question, c'était plutôt que, quand on dit un esprit d'équipe, c'est, on utilise le mot esprit.
Ah bon, ça n'a pas la même connotation que quand on dit l'esprit d'entité.
Mais ça n'a pas du tout une connotation spirituelle.
Oui, oui.
Mais quelque part, ça, pour moi, ça implique plutôt de la responsabilité de la personne qui a fait un choix de style de vie, on va dire. Ou par exemple, qui a eu une éducation. Et comme tu disais, par exemple, il y a des mouvements qui vont insister sur, les baptistes sur le baptême, les pentecôtistes sur la Pentecôte, enfin, etc. Et donc, en fait, c'est un choix, on va dire, d'éducation ou un choix personnel. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un esprit au sens entité ?
À un moment, oui. À un moment, oui.
Oui, à un moment, mais est-ce que c'est pour tous ou alors est-ce que il y a eu un moment ça et après ça s'est étalé.
Moi je pense que pour chacun, il y a un temps où il épouse cet esprit de l'Antéchrist et ce n'est plus l'éducation qu'il a reçue, quoique cette éducation est déjà teintée de cet esprit-là, mais ce n'est plus inconscient, je veux dire. Ça vient un moment où Dieu nous parle personnellement et quand on refuse, ça devient conscient, quoi. Voilà. Au début, ça peut être inconscient. On est dans la logique de l'Antéchrist. Hein. Mais après que Dieu nous ait parlé, si on maintient toujours notre logique autrement, je me souviens, un des problèmes que j'avais eu dans l'ancien mouvement dans lequel j'étais, c'est que un jour, on m'a invité prêcher je suis parti prêcher dans le séminaire des serviteurs de Dieu. Après le soir, le pasteur de l'époque, il m'appelle pour me dire, mais il y a une sœur qui a fait un songe où tu étais à Rouen, tu disais, maintenant que j'ai mon onction, je n'ai plus besoin de son onction à lui, le pasteur. Quoi. Moi, je dis, ah bon ? Déjà, moi, je ne réfléchis pas en termes onction, onction. Moi, je réfléchis en termes Jésus et Bible, quoi, c'est tout. Donc, ce songe-là est faux. Ah non, mais il faut être humble, peut-être que ça arrivera plus tard. Moi, j'ai dit, non. Ça n'arrivera jamais parce que moi, je ne pense pas avoir ton onction. Oh non, c'est biblique. L'onction vient sur la barbe d'Aaron, donc l'onction vient sur un homme que Dieu a choisi, ça se répand sur ses collants. Moi, j'ai dit, en tout cas, moi, je ne pensais pas avoir ton onction. Moi, je pense que je travaille et Jésus travaille en moi. Voilà, c'est tout. C'est pour dire comment on veut prendre ce qui est à Christ. Dans Éphésiens 4, c'est dit que c'est Jésus qui donne les dons. Quand il est monté au ciel, il a donné les dons aux hommes. C'est pourquoi il a donné les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. C'est lui. Et comment dire, dans Actes 1, 8, c'est dit que « Attendez à Jérusalem, hein, vous recevrez, donc moi j'enverrai le Saint-Esprit. » Vous recevrez une puissance. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un homme qui reçoit cette puissance qui commence à distribuer à tout le monde. Non, c'est faux. C'est Jésus qui a décidé. Maintenant, qu'il passe par l'imposition des mains d'une personne, mais ce n'est qu'un canal, mais c'est lui qui a décidé, c'est lui qui donne. C'est très important tout ça, bien-aimé. Vous savez, après, quelqu'un peut aller faire des formations, 10 ans d'études bibliques, après il décide qu'il est devenu pasteur. Non, où est le Fils dans tout ça? C'est le Fils qui donne les dons. Il donne le don parce qu'il en a le droit, parce qu'il s'est sacrifié, donc il est devenu autorité. C'est lui qui donne les dons à l'Église. C'est lui le chef de l'Église. Donc, parce que tu as fait 5 ans d'études, après on te nomme pasteur. Non ! Ça, c'est nier toujours le Fils. Prendre l'autorité. C'est l'esprit de l'Antéchrist. L'Esprit de Dieu voudra toujours que Jésus soit le chef de l'Église. Toujours. Mais l'esprit de l'Antéchrist va créer des nouveaux chefs, va créer de nouveaux chemins. Et souvent même, ça va plus loin, ça devient la personne elle-même devient son propre Dieu. Et quand certains voient que c'est Jésus seul qui est élevé, Jésus seul qui est prêché, petit à petit, ça finit par les embêter. Ils auraient préféré un système où l'homme est élevé. Et parce que comme ça, ils vont espérer un jour être aussi élevés. Oui.
Pasteur, moi j'aimerais savoir, il y a des personnes parfois, c'est parce qu'ils sont, entre guillemets, ils tombent dans le système et ils savent pas forcément que c'est quelque chose de mauvais. Est-ce que ces personnes-là, ça veut dire qu'ils ont l'esprit d'antichrist? Par exemple, l'exemple que tu donnes de quelqu'un qui va faire 5 ans d'études pour devenir pasteur. Peut-être que lui, on lui a dit que c'est comme ça, mais est-ce que ça veut dire forcément...
Mais un jour, Dieu lui parlera. J'ai dit que là, c'est inconscient. Un jour, Dieu lui parlera, et s'il refuse, il possède maintenant cet esprit-là. L'esprit-là le possède maintenant. Mais tant que ça reste une influence extérieure, ça, on est dans l'inconscience. Mais le jour où Dieu nous parle pour nous montrer que c'est le Fils qui a tous les droits. Donc il faut suivre les Écritures. Il faut suivre ce que Jésus a dit. Si on refuse quand même, là, on se laisse habiter par... cet esprit de l'Antéchrist qui veut prendre le pouvoir. Remarquez toutes les déviations chrétiennes, c'est toujours un homme qui prend la place de Jésus. Et d'ailleurs, on appelle les gens avec le nom de cet homme-là. Donc les branhamistes, donc c'est Branham qui prend. Les mormons, c'est Mormon qui prend la place de Jésus. Toujours. Même dans les pays, dans certains pays de tiers-monde, les kimbanguistes, c'est toujours un homme va venir prendre la place du Seigneur. Toujours. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Refuser au Seigneur tous les droits. Refuser les Écritures en quelque sorte aussi. Et on préfère un système où chacun... Il y a même un mouvement au Congo où tout le monde... Il y a des gens qui prophétisent sur commande. Quoi. Et donc... Donc on veut que tout le monde prophétise. Et puis il y a le désordre, on ne sait plus qui on suit, on ne sait pas quoi on suit. Or, on doit suivre les Écritures. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ça qu'il faut suivre. C'est ça reconnaître que Jésus est le maître. C'est lui le Fils de Dieu. Et Jésus dit, les vignerons, quand ils ont vu le Fils, ils ont dit, on l'achève. Comme ça, on prend le contrôle. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont crucifié le Seigneur et ils ont pris le contrôle du peuple juif. Mais le Seigneur est en train de changer ça, pas à pas. Donc, comprenons bien aimé cela, que ça nous rende vigilants dans notre marche chrétienne. L'esprit de l'antéchrist, c'est un esprit séducteur qui vient d'une manière subtile. Il va vouloir te donner à toi de l'importance. Il va vouloir donner de l'importance aux méthodes, aux façons de faire. Aux façons de faire. Bien-aimés, il peut se faire que il y a quelque chose qui a été servi, quelqu'un a mangé, et puis en plus, on venait de prier. Moi, j'ai vu des gens offusqués. Mais on n'a pas béni le repas. Mais bien-aimés, il est écrit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais ce n'est pas un encouragement à ne pas prier. Mais il faut faire attention. Donc, quand Jésus a fait manger le poisson au pied, après sa résurrection, est-ce qu'il a béni? Est-ce qu'il a sanctifié le repas? Il leur a donné le poisson manger, hein? Bien-aimés. Maintenant, nous prions, nous bénissons Dieu parce que nous sommes reconnaissants et nous sanctifions la nourriture. Parce que nous sommes des gens qui devons prier sans cesse. Mais ce n'est pas parce qu'un frère... parce que nous, on a une envie de frère qui... Donc, dès qu'il veut prendre même un petit jus, il fait une petite prière. Là, c'est la peur. Ce n'est plus... Il faut qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. J'ai dit tout simplement, si on ne l'a pas fait et qu'on a bu, on ne s'arrête pas, on dit, bon, j'ai prié, et puis je me dis, non, bien-aimé. Donc, tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est écrit dans 1 Timothée. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Maintenant, nous devons prier parce que nous sommes reconnaissants, parce que Dieu nous a donné ça. Nous devons prier parce que le Saint-Esprit peut vouloir que nous détruisions un poison quelconque qui serait dans ces choses-là. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait que c'est devenu grave. Voilà. Oui.
Pasteur, et parfois si on prie par peur, c'est mauvais? Quand on prie pour se sanctifier parce qu'on a peur, on ne sait jamais, c'est mauvais?
Non, moi je pense que dès que la foi est atteinte, ce n'est pas bon. Nous devons prier parce que le Saint-Esprit nous pousse à prier pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais pas par peur. Voilà. Mais cela dit, nous sommes des humains, la peur, ça ne se contrôle pas, ça peut venir. Hein. Donc on ne peut pas décider d'avoir peur et de n'avoir pas peur. Voilà. Mais quand tu pries, tu dois prier avec foi. Parce que tu es en relation avec ton Père. Et tu pries avec foi, avec autorité, et non pas comme une formule magique. Moi, ce que je vais dénoncer, c'est la formule magique. Il y en a même, pendant qu'il prie, il est déjà en train de penser à quel plat il va se prendre en premier. Donc, il ne prie même pas Dieu. Il pense que, donc, il voit déjà sa main aller à gauche. Mais il est en train de parler, dire quelque chose rapidement. Non, ça, ce n'est pas des prières. Il faut vraiment prier consciemment, savoir ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà. Non pas faire des formules comme ça. Il y en a même, je ne sais pas même s'ils prient, ils font tch, 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 après ils commencent à manger. Mais non, ça c'est pas la prière. Donc je crois que prier, c'est vraiment parler à quelqu'un, parler à Dieu. Voilà, remercier et considérer qu'il est en face, quoi. Voilà. Mais prier comme une formule, parce que un chrétien doit prier, ce n'est pas bon. Nous sommes en train d'éliminer le Fils. On ne parle plus au Fils, mais on est en train de faire notre formule. Oui.
Pasteur, un jour je mangeais, et puis avant de manger, je faisais la prière pour sanctifier la nourriture. J'étais avec un frère qui n'est plus avec nous. Et le frère m'avait dit le sang de Jésus était destiné uniquement pour les humains et non pour sanctifier la nourriture. Donc on ne peut pas sanctifier la nourriture avec le sang de Jésus.
Non, bon, moi, c'est vrai que non. Je ne dis pas que le sang de Jésus est destiné qu'aux humains ou qu'aux humains, mais je dis que le sang de Jésus n'est pas une formule non plus. Ce n'est pas, on ne va pas laver la maison avec le sang de Jésus, faire ceci avec le sang de Jésus. Moi, je crois que c'est devenu une formule pour beaucoup de personnes. Voilà.
Moi, ma question, est-ce que c'est normal? On peut sanctifier la nourriture? On peut dire, voilà, je sanctifie la nourriture par le sang de Jésus?
Non, moi je préférais dire que tu sanctifies tout simplement la nourriture au nom de Jésus. Mais parce que sinon, oui, mais quand on commence à utiliser le sang comme une sorte de détergent, ce n'est pas bon. Donc, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est vrai. C'est cette victoire-là que nous avons à cause du sang de Jésus qui nous donne l'autorisation de détruire les œuvres de ténèbres dans une nourriture. Voilà. Mais ce n'est pas un moyen comme une sorte de détergent. Allez, Seigneur, ton sang sur notre véhicule. Non, je pense qu'on doit prier, Seigneur, au nom de Jésus, nous savons que les forces des ténèbres, nous les avons vaincues à cause de ton sang. Et c'est avec cette autorité-là que nous prions que toute âme forgée contre nous est sans effet, nous allons arriver à destination. Voilà.
Mais
s'il y a une différence, c'est que là, quand on utilise le sang pour la voiture, pour la nourriture, ça devient comme une sorte de magie, quoi, une sorte de pouvoir. Non. Donc, il faut se souvenir que c'est à cause du sang de Jésus qu'on est pardonné. C'est à cause du sang de Jésus que nous avons la victoire sur les forces des ténèbres. Mais ce n'est pas comme une sorte de bidon qu'on a rempli de sang qu'on verse à un moment donné, quoi. C'est ça que moi, je veux éviter. Maintenant que... je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein.
Oui.
Mais je sais que dans les milieux... C'est comme ça, mais bon, il faut rester biblique.
Mais tout le temps aussi, on est censé dire, voilà, je brise par le nom de Jésus. Tout le temps, c'est le nom de Jésus, c'est pas mauvais.
Ah non, mais c'est ce que je t'ai dit. Jésus a dit qu'on doit prier en son nom. Voilà, on respecte ça. Il n'a pas dit qu'on prie en son sang. Maintenant, on peut faire référence à son sang pour signifier la victoire et l'autorité que nous avons. Parce que le diable peut dire, mais toi, tu es un petit, tu peux m'affronter. Tu dis, mais non, nous t'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Et donc, je t'ordonne maintenant de sortir au nom de Jésus. Voilà. On fait référence à la victoire à cause du sang de l'agneau. Mais utiliser ça comme... Nous, on avait même quelqu'un qui, dans les délivrances, il disait à la personne qui confessait la délivrance, bois le sang de Jésus. Il disait plutôt au démon. Allez, bois le sang de Jésus. Donc, pour que ça le brûle dans l'œsophage, dans l'estomac. Non, ce n'est pas écrit dans la parole. Maintenant, celui qui le fait, il y en a des gens qui disent, mais pasteur, ça marche. C'est pas, mais beaucoup de choses marchent. Beaucoup de choses. Les avions, ça marche. Les voitures aussi, ça marche. Et voilà. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose marche que c'est de Dieu. Voilà. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, peut chasser quand même un esprit de cette manière-là. Mais restons bibliques. Vous savez, quand vous êtes au tribunal, hein, ce n'est pas l'avocat lui-même qui est votre victoire, ni le juge qui est votre défaite. Ce sont les textes. Donc si tu as un très bon avocat, il va prendre le bon texte qui va faire taire le juge et tu es libéré. Donc l'avocat lui-même n'est pas fort. Quand il est fort, c'est quand il sait bien utiliser les textes. Donc il faut que le jour où tu rencontreras Dieu, quand Dieu, tu diras à Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé souffrir comme ça? Pourtant j'avais prié de telle manière que cette manière-là, il puisse voir ça que c'est écrit. Là tu peux dire, voilà, d'accord, tu es juge, mais voilà ce qui est écrit dans le code qu'on appelle la Bible. Donc Dieu est bloqué. Il est obligé de dire, tiens, il y avait eu un problème. Mais le jour où tu vois Dieu, tu dis, mais j'avais prié pourtant comme ça. Je dis, mais moi je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Donc, tu es bloqué, oui.
Le Seigneur nous demande d'être vigilants. Et peux-tu m'expliquer dans quel sens...
La vigilance, c'est prendre au sérieux les avertissements du Seigneur. La vigilance, ce n'est pas la méfiance. Commencer à chercher les erreurs des autres, chercher, voilà, fouiller. La vigilance, c'est être attentif aux avertissements que le Seigneur peut te donner concernant une telle ou telle situation ou telle ou telle personne. Prendre au sérieux ces avertissements, c'est ça la vigilance. Et deuxièmement, la vigilance, c'est tout lié à la parole. Donc tout ce que tu reçois, tu cherches l'équivalent, le lien avec la parole de Dieu, le lien avec l'esprit de Jésus. Ça, c'est la vigilance. Donc tu es quelque part, tu entends les enseignements, tu es quelque part, tu vis la communion fraternelle, tu cherches toujours le lien avec le Seigneur. Dès tant que tu es dans cet état-là à chercher le lien avec le Seigneur, le lien avec la Bible, tu es dans la vigilance. Ça, c'est ce que nous devons faire par nous-mêmes. Maintenant, ce qui appartient à Dieu, c'est de nous avertir, c'est de nous montrer les choses cachées. Et la vigilance, dans ce cas-là, c'est prendre au sérieux les avertissements du Seigneur.
Voilà. Par rapport aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui font des bons dès qu'une personne qu'ils ne connaissent pas leur donne un gâteau à leur enfant. Je vois quelquefois des réactions. C'est qui a donné ça? C'est qui a touché à mon enfant? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que ça fait un petit peu...
Non, moi, je pense que s'ils sont convaincus par l'esprit d'être vigilants par rapport à ça, le Seigneur a dit qu'on doit être prudent comme des serpents. Donc maintenant, là où c'est mauvais, quand ça tue la foi, c'est-à-dire que la personne manifeste plus la peur que la foi, c'est pas bon. Tout ce qui tue la foi n'est pas bon. Donc maintenant, nous ne savons pas ce qui se passe dans nos écoles. Oui, mais c'est ça. Non, mais que quelqu'un soit vigilant par rapport à ce que prend son enfant, ce n'est pas mauvais. Mais que ça lui amène à trembler, à avoir peur, donc c'est tuer la foi. Or, le juste vivra par la foi. Ça, ce n'est pas bon. Donc, on doit rester. Parce que l'autre danger est là aussi. Il y a des gens qui ne sont pas vigilants par rapport à ce qui se passe. Et ils finissent par subir des choses aussi. Ils ne comprennent pas d'où ça vient parce qu'ils ont refusé, parce que c'est quand même un commandement du Seigneur. Soyez prudents comme un serpent. Voilà, c'est quand même son commandement. Ça ne vient pas de... Voilà.
Quand tu as des païens autour de toi qui offrent un gâteau à ton enfant, des païens que tu connais dans ton quartier, par exemple, avec qui tu as une certaine entente, est-ce que tu dois tout de suite...
Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Comme j'ai dit, la vigilance, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit, aux avertissements qu'il nous donne. Hein. Voilà, s'il ne nous dit rien, il ne nous dit rien. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Hein. On est à l'écoute. Oui ?
C'est intéressant ce que disait Tata Bena tout à l'heure par rapport au sang de Jésus, parce que c'est vrai que, enfin, personnellement, par exemple, moi, quand je priais, moi, dans ma logique, c'était le sang de Jésus nous a purifiés de nos iniquités, de nos péchés. Donc, s'il a lavé nos péchés, donc il peut tout laver. Donc, c'était dans ce raisonnement-là. Donc, je vois pas. Enfin, j'arrive pas, en fait, à comprendre.
Moi, je préfère. Mais là, c'est ton raisonnement, tu as bien dit.
Oui, c'est moi.
Mais il faut rester. On va lire 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. Je pense que moi, donc il faut toujours être appuyé par la parole pour des choses importantes. Maintenant, par rapport à ton voyage, si tu veux aller quelque part, bon, là, si tu dis je pense que, bon, nous, on ne pourra pas intervenir, mais si c'est quelque chose lié à la doctrine chrétienne, il vaut mieux être appuyé par ce qui est écrit. Oui, celui qui a le micro nous lit 1 Corinthiens 4, 6. Voilà, toi-même, tu as le micro.
Frère, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. Oui, c'est en français courant.
Oui, continue.
J'ai voulu que par notre exemple, vous appreniez le sens de ce principe. Il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit.
Voilà. Voilà, il convient de rester dans les limites
de ce qui est écrit.
De ce qui est écrit.
Mais faut, parce qu'heureusement, là qu'elle en a parlé, parce qu'il faut le savoir.
Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Donc, voilà ma réponse, 1 Corinthiens 4, 6. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Okay. Donc, maintenant, moi, je ne dirais pas que quelqu'un qui l'a fait, il a péché. Non. Je dirais tout simplement, il n'a pas fait les choses telles que c'est écrit. Maintenant, la préférence, quand même, c'est de faire les choses telles que c'est écrit. Voilà. Savoir que nous avons vaincu les forces démoniaques à cause du sang de Jésus. Et cela nous donne l'autorisation de marcher sur eux et de détruire leurs œuvres. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous donne cette autorisation-là. Parce qu'il peut toujours te tacler en disant, mais oui, mais hier tu as fait un péché. Tu sais, tu dis, non, mais je suis purifié par le sang de Jésus. Voilà. Oui.
Moi, je pense que cette affaire de purifier les choses au sang de Jésus, je crois qu'il y a l'influence du catholicisme qui ont amené ça même dans leur culte, tu vois, que quand ils prient, ils ont un système, bon, maintenant, confessons nos péchés et que le sang de Jésus nous lave. Et inconsciemment, les gens, sachant que le catholicisme a une emprise quand même terrible sur le monde, et c'est devenu un peu un système.
Mais le catholicisme lui-même vient aussi de l'ennemi, donc c'est de la chair. c'est pas que le catholicisme, parce que vous retrouvez ça dans des religions plus vieilles que le catholicisme, comme dans le judaïsme. C'est les mêmes techniques. Donc on va vouloir utiliser un objet pour purifier, de l'eau pour purifier, des choses. Donc c'est que l'homme veut avoir un pouvoir personnel. C'est le problème, c'est ce problème-là. Il veut avoir un pouvoir qu'il peut utiliser comme un revolver, comme... Or, c'est pas ça. C'est que nous avons un pouvoir dans le nom de Jésus. Le pouvoir que Jésus nous a laissé. Donc nous devons toujours faire référence à Jésus. C'est lui le Fils, c'est lui le Maître. Et donc, quand on oublie le Fils, eh ben, on finit toujours par entrer dans des logiques personnelles, humaines. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et n'oublions pas ça aussi. Parce que parfois, les choses peuvent se faire de telle manière. On conteste ou bien on pense qu'il faut que ça aille à B. Mais non, mais c'est, qui est le chef? Est-ce que toi, tu as posé la question au chef? C'est ça, là, c'est Jésus qui est le chef. Il faut intégrer ça. Donc, c'est pourquoi c'est écrit clairement, celui qui nie Jésus, ben, il ne connaît pas non plus Dieu. Donc, il nie l'héritier, celui qui est le chef, il le nie. Donc, il faut toujours qu'on pense au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et dès que l'esprit de l'Antéchrist est en action, petit à petit, on diminue le nom de Jésus, son autorité, on diminue cela. Et cela et vous allez voir ça dans beaucoup d'endroits où il y a la déviation. Ce n'est plus l'autorité du Fils qui est là, mais c'est un système qui a pris la place. Et ce ne sont plus les Écritures, mais c'est un système. Comme je dis, on présente un pasteur, le père de la nation. Voilà. Voilà, c'est un système qui prend place. Et moi, je vois, par exemple, il y a beaucoup de sites africains. Dans le même site, il y a les théâtres, les chants du monde, et puis il y a une rubrique église. Mais comment, dans le même site, il peut y avoir les deux? Donc, c'est que, petit à petit, l'autorité de Jésus s'en est allée. Il n'y a plus l'autorité de Jésus, et les gens font comme ils veulent. Donc, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Donc, les gens font comme ils veulent. Et Jésus, c'est vraiment... comprenez que certains n'ont jamais compris que Jésus chasse les vendeurs du temple, use de violence. Mais c'est normal, c'est sa maison. Et il a justifié ça en utilisant un verset biblique. Il a dit, c'est écrit que ma maison sera une maison de prière. Vous, vous en faites une caverne de voleurs. Il a utilisé ça. Et il y a un verset qui dit dans le psaume, il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Voilà, donc c'est la maison de son père. Le temple, c'était la maison de son père. Donc quand il est venu en fils et qu'il a vu tout ça, il avait autorité pour les chasser. Ce n'était pas par une colère pécheresse, c'était la colère du patron. Vous n'avez pas à faire de ma maison une maison de voleurs. Il les a chassés. C'est Jésus qui règne et qui doit régner dans tout ce que nous faisons lié à l'évangile, lié à la foi. Donc quand nous voulons répondre à des questions, nous devons chercher des références bibliques. Quand nous voulons prendre des cheminements, nous devons nous référer à la Bible. Et quand on nous montre des versets bibliques, que ne soient pas de ceux-là qui disent... Mais, soyons réalistes, mais, ceci. Non, il n'y a pas de mais, c'est écrit. C'est écrit. Et quand c'est clair, soyons humbles pour pratiquer et appliquer. Voilà. Donc, si on prend notre sujet, je crois qu'on n'aura pas le temps. Je crois qu'on va clôturer là. Et oui, toujours dans ce même sujet.
Pasteur, juste une petite précision là, par rapport au mais. Il y a aussi des gens qui vont nous apporter un verset biblique et à partir de ce verset biblique-là, veulent en faire toute une soit une doctrine ou soit des mauvaises choses. Donc il y a quand même le mais dans le sens sur certains versets qu'il faut pas les isoler en fait.
Ah oui, mais ça c'est moi quand j'ai dit les mais, il y a des gens qui disent mais soyons réalistes. Mais comme quelqu'un qui va dire mais l'argent viendra d'où si on fait tout gratuitement. Voilà. Mais c'est des, avec, mais suivi des raisonnements humains. Mais si le mais est suivi des versets bibliques. Ah, ça c'est bien, au contraire, c'est ça l'esprit de Christ. Donc tu veux t'appuyer, même Christ. Moi ce qui me dépasse, c'est quand Jésus est tenté, il a répondu, il est écrit. Il est écrit, il pouvait dire, Dieu m'a dit, ou bien dire, je dis, puisqu'il est Dieu. Voilà. Mais non, il a dit, il est écrit. L'esprit de Christ, c'est se référer à ce qui a été déjà dit, ce qui est écrit. Et donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on doit trouver le parallèle. Moi, je me souviens, quand j'étais nouveau chrétien, je ne connaissais pas beaucoup les versets bibliques. Mais quand j'arrivais dans un groupe, il y a en moi quelque chose qui me montrait si le groupe était bon ou pas, sans démontrer par un verset. Au fait, c'était l'esprit de Jésus. Parce que ce qui est de Dieu, on verra la même humilité que Jésus. Moi, je pense que quand on va voir, entre nous, si on voit un pasteur habillé en costume rouge, jaune, rouge, rouge, et puis un gros collier en or, quatre gardes du corps, il sort d'une limousine, on lui ouvre la portière. Je crois que même si on ne connaît pas beaucoup, mais le simple fait d'avoir connu Jésus, nous pouvons dire non, il y a un mais là. Jésus n'était pas comme ça. D'où l'importance de connaître Jésus, de lire l'histoire de Jésus. C'est très important de connaître le Fils, parce que c'est le Fils qui est le chef, c'est le Fils qui est le chemin que Dieu a donné. Donc, il faut le connaître. Même si tu ne connais pas le nombre 12, ça veut dire quoi? Le nombre 7, ça veut dire quoi? Connais Jésus. Connais Jésus. Il y aura des cas où tu seras sauvé, non pas parce que tu as trouvé le verset qui contredit, mais parce que ce que tu vois là ne cadre pas avec l'esprit de Jésus, avec l'esprit de la Bible, quoi. Ça ne cadre pas. Même si tu ne sais pas très vraiment définir là où ça ne cadre pas avec un verset à l'appui, mais tu as connu le Seigneur, tu sais que le Seigneur n'est pas comme ça. Voilà. Un jour, tu trouveras le verset ou tu trouveras le lieu. Mais tu connais Jésus. Jésus est celui qui disait, je n'ai pas d'endroit où dormir. Jésus est celui qui a envoyé ses disciples. Moi, comment j'en suis arrivé à la gratuité? Un jour, on évangélisait dans la région parisienne. À un moment donné, on avait besoin d'une partie d'un livre dans le cadre de cette évangélisation. Mais quand j'ai voulu photocopier, c'était écrit photocopier interdit. C'était interdit de photocopier. Mais j'ai dit, oh, c'est là que j'ai dit, mais non, c'est contraire. Je n'avais pas de verset clair. J'ai dit, mais non, Dieu veut sauver l'humanité. Cet homme qui a écrit le livre, c'est pour sauver l'humanité aussi. Mais comment il peut dire que c'est interdit de photocopier? Mais ça contredit l'esprit du salut. Donc ça m'a fait réfléchir et c'est resté en moi jusqu'au jour où je suis arrivé au point de pouvoir produire aussi des choses, des CD, on pouvait produire des CD. C'est là que cette réflexion-là vieille de plusieurs années est remontée pour dire, mais non, ce n'est pas l'esprit de Christ ça, il y a un problème. Voilà. Mais à l'époque, je n'avais pas forcément un verset clair, mais je sentais qu'il y avait un problème quand on comparait l'amour de Jésus, qui veut sauver tout le monde, et le fait qu'on interdise de photocopier quelque chose qui peut sauver, il y avait un problème. Je crois qu'on doit vraiment lire Jésus. Lire Jésus. Un chrétien qui ne connaît pas Jésus aura des problèmes. Il se fera voir toujours. Il faut connaître Jésus. Ça t'évitera des pièges, des dangers. Parce que, voilà, on est des humains. La chair est encore là. Et donc, pour éviter que la chair prenne le dessus, il faut connaître Jésus, lire Jésus. C'est très, très important. On a l'habitude d'en parler tellement, mais bon, moi, je reviendrai toujours là-dessus. Hein. Vous savez, Jean l'a dit, Jean 20 ans, il dit que tout ceci a été écrit dans un but, que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et que, en connaissant Jésus, vous ayez la vie. Moi, je n'ai pas d'autre prédication que celle-là. Tout ce qui a été écrit, c'est pour qu'on sache que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, quand tu évolues en tant que chrétien, comme si tu étais indépendant, tu es en train de devenir un grand, c'est faux, tu es déjà dans l'erreur. Le chrétien, c'est celui qui est... Jésus a dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Le chrétien, c'est celui qui est derrière Jésus, qui est en train de le suivre. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas celui qui a fait 30 ans, 40 ans d'expérience. C'est celui qui est derrière Jésus, qui est en train de le suivre. Et il a dit à Pierre, parfois je t'emmènerai où tu ne voudras pas. Voilà, ça c'est le chrétien. Il suit Jésus. Parce que là où Jésus est, c'est là qu'il doit être. Et ce n'est pas suivre la facilité, ni des méthodes, ni ce qui marche. Il y a des gens qui disent, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui permet qu'on ait des chaînes de télévision chrétiennes. Et grâce à ces chaînes de télévision chrétiennes, on arrive à convertir les musulmans en Iran. Mais si on n'avait pas fait des demandes comme dans le monde, on n'aurait pas ces chaînes-là. Vous voyez comment on peut être déstabilisé? Mais oui, mais vous faites des demandes d'argent comme ça, comme dans le monde. Ah oui, mais c'est grâce à ça qu'on a ces chaînes. Et c'est grâce à ces chaînes que les chrétiens sont convertis en Inde. Convertis, on peut passer par satellite pour toucher. C'est parce que cet argent-là est utilisé pour ça. Et le chrétien, il baisse les bras, il capitule, dit oui, c'est vrai quand même. Hein, ça aide pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que Dieu a demandé que pour son œuvre, on soit obligé de nous compromettre? Jamais, c'est écrit. Voilà. Dieu n'a jamais demandé cela. Lisons les évangiles, on verra nulle part le Seigneur permettre le compromis pour atteindre ses objectifs. Restons dans l'esprit de Jésus. Oui. Moi, j'ai un exemple toujours frappant. C'est Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, il avait la capacité de se déplacer d'une manière instantanée. Mais normalement, Jésus devait aller voir tous ces gens qui s'étaient moqués de lui pour dire, mais voilà, je suis ressuscité. Il devait aller voir tout le monde pour dire, je suis ressuscité. Il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas la procédure de son Père. La procédure, c'était que vous et moi, c'est nous qui allions faire ce travail-là. Et lui en nous, ça sera la preuve qu'il est ressuscité. C'est ça, bien-aimé, à la place de Jésus, nous tous qui voulons sauver l'humanité. On dit, j'ai le pouvoir de me déplacer comme ça, mais je vais prouver à ces gens-là que Dieu est fort. Hein. Il y en a des chrétiens qui font des prières pour prouver aux païens. Mais non, il faut obéir à Dieu, pas prouver. Et tout ça, il faut changer, il faut suivre Jésus. Jésus ressuscité, pourtant on s'est moqué de lui. Il est apparu qu'à qui? Qu'aux disciples, qu'à ceux qui croyaient en lui. Mais tous ceux qui se sont moqués de lui, tous ceux qui l'ont injurié, il n'est jamais apparu pour dire, voyez, hein, vous devez se moquer, je suis ressuscité, non? Qu'à ses disciples. Maintenant, quand le disciple Pierre fait marcher un paralytique, quand on lui demande comment, il dit Jésus. Donc Dieu a choisi que c'est comme ça qu'on sache que Jésus est élevé. Et nous, on va vouloir qu'on le sache par notre façon. Non, c'est la façon de Dieu qui compte. Oui.
On passe à juste une petite question. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je voulais poser, entre guillemets, les organismes comme Porte Ouverte ou soit Juifs pour Jésus qui font, eux aussi, ils font des demandes. Quoi. Des dons pour avancer.
Mais ce n'est pas la même manière. Eux, ils exposent le travail qu'ils font. Et Paul aussi a fait un appel aux dons pour aider les églises de Jérusalem. L'église de Jérusalem. Mais je crois que toi, tu penses que c'est des chaînes anglaises, hein? Sur Free ou SFR, il y a la chaîne God TV ou bien Inspiration. Mais allez suivre comment ces gens-là demandent l'argent. Donc, hier, avant-hier même, j'ai suivi un pasteur qui expliquait que, il y a des anges, il y a des offrandes qui font monter les anges plus vite vers Dieu pour amener le message. Donc, si on était... Moi, j'ai dit, mais heureusement, on n'a pas de revolver parce qu'il y a des trucs... Tu prends une arme, tu tues quelqu'un parce que c'est trop grave. Donc, il y a une offrande. L'offrande que Manoac avait faite, ça a brûlé vite. Et l'ange donc, est allé vite vers le Seigneur.
Ouais, moi, j'ai déjà vu aussi... Comme ça, dans une église où ils mettent les offrandes par carte bleue, c'est
voilà, donc c'est pas la même chose. Donc il y a des organismes qui font un travail pour sauver les âmes. Ils exposent leurs besoins librement, mais ils ne te manipulent pas en prenant un verset, en détournant, en trichant. Ils ne trichent pas. Ils sont clairs dans ce qu'ils font. Voilà. Et là, c'est de la tricherie. Prendre un verset, dire il y a des anges de... Voilà, j'ai oublié le nom qu'il a appelé ça. Il a expliqué qu'il a dit que monsieur là, voilà, Zacharie, quand il a obtenu la naissance de Jean-Baptiste, il dit que mais Zacharie priait depuis longtemps. Mais ce jour-là, il a fait l'offrande de parfum. À cause de l'offrande de parfum, on lui a dit ta prière a été exaucée. Mais pourtant, il priait depuis longtemps. Pourquoi on a exaucé seulement la prière de ce jour-là? À cause de l'offrande de parfum. Bien-aimé. Or, Zacharie, quand il entrait dans le temple, il faisait toujours l'offrande. C'est des gens, vous savez, même avec, il mélange avec l'ignorance. Ils savent quel public est là. Parce que tout sacrificateur, quand il entre, il fait des sacrifices, il fait l'offrande. Donc, dire aux gens, c'est comme si Zacharie n'avait fait l'offrande de parfum que ces jours-là, c'est faux. En tant que sacrificateur, à chaque fois qu'il allait dans le temple, c'était pour une offrande. Il faisait des offrandes. Donc, il profite de l'ignorance des gens qui sont là. Et il manipule, il tord les Écritures. C'est de cela que je dis que c'est méchant, c'est mauvais, parce que c'est tellement méchant que ça empêche les gens de venir au fils. Les gens vont chercher une méthode, une offrande pour être exaucé très vite. L'ange va se reposer et la fumée va le faire monter vite. Est-ce qu'un ange a besoin de la fumée d'une offrande pour... C'est des abominations, quoi. C'est des abominations. Et qui éloigne les gens de Dieu? La personne est convaincue qu'en donnant son argent, ça y est, il monte. Et vous savez que dans ces églises-là, le moment des offrandes, c'était un moment de prédication aussi. Ça veut dire que quand il y a séminaire, il y a un qui va prêcher, et au moment des offrandes, on appelle un pasteur reconnu dans le milieu comme celui qui sait vraiment tourner le cœur des gens à donner. Et c'est lui qui passe. Et la preuve, tous les autres rigolent parce qu'ils savent qu'ils racontent des bobards. Mais pourquoi ils rigolent? Parce qu'ils savent qu'ils exagèrent. Ils savent qu'ils exagèrent. Mais ils sont disent, mais c'est lui qui sait convaincre les gens. Non, c'est pas bon. Et tout ça, ça détourne les gens de Jésus. Ça les amène vers autre chose. C'est ça l'esprit de l'antéchrist. Quand on dit antéchrist, les gens entendent seulement l'homme impie. Non, l'esprit de l'antéchrist est déjà en action. Et en action même parfois en nous-mêmes pour nous enlever l'autorité de Jésus sur notre vie. C'est très dangereux. Restons sous l'autorité de Jésus. C'est Jésus qui doit nous diriger. C'est lui qui doit être notre chef personnel. Donc ne laissons pas la distraction l'emporter. Ce n'est pas nos raisonnements, ni nos pensées, ni les formules, ni les méthodes. C'est Jésus qui doit être notre chef. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous aider à t'accepter comme fils de Dieu, venu en chair, avec tous les droits du fils, avec tous les droits du père. Aide-nous à t'accepter dans nos vies comme étant le fils de Dieu, car toute la parole a été écrite afin que nous croyions que tu es le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on se soumette à toi et qu'on ait la vie. Ô Seigneur, aide-nous à être vigilants par rapport à l'esprit de l'antéchrist qui sévit aujourd'hui dans le monde. Que nous soyons vigilants par rapport à l'esprit de l'antéchrist qui veut nous éloigner, nous pousser à chercher notre appel personnel comme si c'était quelque chose de mystérieux, alors que c'est quelque chose de simple que tu donnes. Que nous puissions nous concentrer sur toi, te suivre toi, Seigneur. Aide-nous à être humbles et à accepter ton autorité sur nos vies. Et partout où nous irons, que nous puissions discerner l'esprit de l'antéchrist et le vaincre au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Père éternel. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.